Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération française de cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Dans cet épisode que nous consacrons au cholestérol et au diabète, nous allons vous aider non seulement à mieux comprendre leur impact sur le cœur, mais nous vous donnerons surtout des conseils pour les maîtriser grâce à une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Pour connaître votre niveau de risque cardiovasculaire, il existe un test disponible sur le site de la Fédération française de cardiologie et ce test permet d'évaluer votre risque cardiovasculaire en fonction de vos habitudes de vie et de vos antécédents médicaux. Nous avons fait remplir ce test à quelques témoins. Écoutez le résultat.
Alors vous êtes une femme.
Mes facteurs de risque liés à mon mode de vie. En termes d'alimentation, mangez-vous des fruits et légumes tous les jours ? Ouais, moi je mange à peu près 5 fruits et légumes par jour.
À votre domicile, vous mangez le plus souvent des plats préparés du commerce, des plats cuisinés à la maison, des conserves. Je consomme majoritairement des plats cuisinés en fait, et donc voilà. Et puis parfois des plats du commerce. Ok.
Qu'est-ce que je mange à la maison ? J'aime bien cuisiner, donc forcément, je me fais à manger à la maison. Mais parfois, oui, ça m'arrive d'acheter des plats tout prêts parce que j'ai pas le temps et parce que ça rend service tout bêtement.
Alors, des plats préparés du commerce, non. Des plats cuisinés maison, oui, j'adore ça. La cuisine, c'est un de mes passe-temps. Les conserves, de temps en temps. Hein.
Alors, entre les deux, préparer ou cuisiner à la maison, on va dire qu'il y a un petit peu plus de plats préparés du commerce. Mangez-vous régulièrement de la charcuterie, du fromage ? Oui.
Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? Oui, j'essaye. Hein. Entre 2 et 5 fruits, de 2 à 5 jours par semaine, largement, oui.
Non, j'aime pas trop les fruits. Et en plus, j'ai pas mal de fruits pour lesquels je suis allergique. Donc, je mets moins de 2 fruits et légumes par semaine.
Alors, moins de 2 fruits, entre 2 et 5 fruits, entre 2 et 4 fruits et légumes par jour.
Les autres facteurs de risque ?
Alors, je ne suis pas diabétique, donc je ne connais pas ma glycémie.
Est-ce que j'ai un taux de cholestérol élevé ? Je ne pense pas, en tout cas, j'espère pas, vu mon mode de vie, en tout cas. Je ne connais pas non plus, évidemment, mon taux de cholestérol. Est-ce que je suis diabétique ? Non, je ne suis pas diabétique, donc du coup, je ne connais pas non plus mon taux de glycémie.
Oui, j'ai du diabète. Est-ce que je connais ma glycémie ? Oui, évidemment. Hop, 1,7 grammes par litre.
Alors, je reçois maintenant au micro le docteur François Paillard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur, vous avez entendu ces témoignages. Est-ce que déjà vous voulez réagir à ce que vous avez entendu ?
Oui, c'est des témoignages intéressants parce qu'ils reflètent un petit peu l'alimentation des Français en général, avec des choses favorables et puis des choses qui le sont moins. Alors, dans les choses que je retiens, on en rediscutera éventuellement plus tard, mais les choses qui sont particulièrement favorables, c'est la consommation de fruits et légumes. Une personne qui dit qu'elle consomme 5 fruits et légumes, c'est le repère, 5 portions de fruits et légumes par jour, parce que ça apporte beaucoup de nutriments protecteur. Donc, c'est un bon repère. À l'inverse, il y a des consommateurs réguliers ou importants de charcuterie, par exemple. La charcuterie peut être consommée, mais il est plutôt conseillé de limiter ça à une fois par semaine parce que c'est une source de graisse pas très favorable et puis également de sel. Donc, c'est pas très souhaitable d'en consommer beaucoup. De même, il est question des produits alimentaires du commerce ou des plats préparés. Évidemment, plus les produits sont préparés par quelqu'un d'autre, moins on surveille ce qu'il y a dedans et plus on a un risque que ce soit des graisses pas forcément très favorables, donc ce qu'on appelle les graisses saturées, qui vont plutôt augmenter le cholestérol par exemple, et puis qui vont être plus riches en sel en général. Donc voilà quelques points de repère qui sont effectivement, il y a du bon et il y a du moins bon.
Alors, il faut le préciser, je ne l'ai pas fait, vous êtes cardiologue et on va parler d'abord de cholestérol, parce que vous avez évoqué ce nom. Le cholestérol joue un rôle sur notre risque cardiovasculaire.
Absolument, c'est un des facteurs de risque principaux, majeurs, parce que l'excès de cholestérol dans le sang pendant la vie va augmenter le risque de dépôt de ce cholestérol dans la paroi des artères. Et alors, ça se fait de façon très progressive et silencieuse pendant la vie, mais au bout d'un certain temps, quand ces dépôts deviennent importants, ils peuvent créer des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire notamment l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'artérite des membres inférieurs, qui toutes sont liées plus ou moins à ce qu'on appelle des plaques d'athérosclérose, qui au départ sont beaucoup des dépôts de cholestérol dans l'artère.
Et ça, les patients n'en ont aucune conscience avant que ça arrive. C'est-à-dire que les premiers accidents, ils arrivent sans prévenir.
Voilà. L'accident arrive sans prévenir à 40, 50 ou 60 ans. Le malade a l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. En réalité, ses artères étaient en quelque sorte préparées depuis 10 ou 20 ans. Et notamment, l'excès de cholestérol joue un rôle à ce niveau-là. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des facteurs de risque importants. Et ça se fait de façon totalement silencieuse. C'est-à-dire que ces premiers dépôts de cholestérol, ces plaques d'athérosclérose initialement, lorsqu'elles ne sont pas très importantes, lorsqu'elles ne rétrécissent pas le vaisseau de façon importante, à 50% ou plus par exemple, elles ne donnent pas de symptômes. Donc on peut avoir les artères un petit peu abîmées ou prédisposées aux problèmes cardiovasculaires aigus sans le savoir.
Alors, dans le cholestérol, il y a une petite astuce, c'est qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. C'est quoi cette histoire de bon et de mauvais cholestérol ?
Alors, le cholestérol est toujours le même. Simplement, il est véhiculé par ce qu'on appelle des lipoprotéines. Donc, c'est des ensembles qui ne comportent pas que du cholestérol, mais autre chose. Et ces lipoprotéines, effectivement, certaines sont responsables d'acheminer le cholestérol vers des sites d'utilisation. Et quand il est en excès, il peut se déposer dans les artères. C'est le mauvais cholestérol, ce qu'on appelle le LDL cholestérol. Et puis, il y a une autre partie de véhicules qui, au contraire, sont responsables plutôt de reprendre le cholestérol pour l'éliminer. Ça, c'est évidemment plutôt du bon cholestérol, entre guillemets. Et là, c'est le HDL cholestérol. La majorité du cholestérol, malheureusement, se situe plutôt dans le compartiment mauvais cholestérol. Donc, quand on a un cholestérol total qui est élevé ou très élevé, il faut s'attendre, malheureusement, à ce que la majorité soit dans le mauvais compartiment, donc qu'il y ait un petit peu de mesures à prendre pour le réduire. Il est rare que ça porte exclusivement sur le bon cholestérol.
Et nos actions, elles vont jouer sur le mauvais en règle générale, pas forcément sur
le
bon.
Et les actions ne vont jouer que sur le mauvais. Le bon cholestérol, ça va moduler le risque. Quand il est un peu haut, tant mieux, ça réduit un petit peu le risque. Il ne faut pas trop non plus surestimer son bénéfice. Et quand il est bas, c'est un petit facteur de risque supplémentaire. Donc, mais ce HDL cholestérol, malheureusement, il est plutôt génétiquement déterminé. Il est très peu influencé par le mode de vie. Et c'est surtout la composante mauvais cholestérol, donc le LDL cholestérol, qui, elle, peut être sensible, en particulier à l'alimentation.
C'est quoi les causes de l'arrivée de ce cholestérol ?
Alors, les causes, c'est à la fois une prédisposition génétique, dans certains cas, et puis le facteur alimentaire. Il y a les deux qui jouent un rôle de façon plus ou moins importante et parfois c'est seulement l'alimentation défavorable, mais auquel cas jouer sur l'alimentation va corriger le trouble. Très souvent, il y a une prédisposition génétique, parfois modérée, qui donne des hypercholestérolémies modérées, qui vont être accessibles là aussi à des modifications de l'alimentation. Et puis parfois, la prédisposition génétique est beaucoup plus forte. Et là, on a en général des hypercholestérolémies importantes, avec des niveaux de cholestérol total beaucoup plus importants, de mauvais cholestérol beaucoup plus importants. Et ces formes génétiques, l'hypercholestérolémie familiale, sont vraiment un vecteur de maladies cardiovasculaires de façon très importante parce que le taux de cholestérol est beaucoup plus élevé que normalement et depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis l'enfance. Et donc là, c'est un risque tout à fait important.
Alors le cholestérol, c'est un des risques cardiovasculaires. Il y a un autre risque cardiovasculaire, c'est le diabète. Alors le diabète, ça peut être large parce qu'il y a deux types de diabète déjà. On peut parler de ce type 1 et type 2 ?
Le type 1, c'est le diabète qui survient chez les enfants ou les jeunes adolescents. C'est une carence complète en insuline qui n'est plus produite par le pancréas. Ça nécessite obligatoirement et très rapidement un traitement par insuline. C'est heureusement le diabète le plus minoritaire en nombre. Ça ne représente que 5 à 10% maximum des diabètes. Et là, le mode de vie n'a rien à voir. C'est uniquement la malchance et donc il faut traiter par insuline. L'immense majorité des diabètes, notamment dans les sociétés développées, entre guillemets, ou pour lesquelles l'alimentation est en abondance, c'est le diabète de type 2. Et là, ça représente 90 à 95%. C'est un diabète qui va apparaître plutôt avec l'âge, donc plutôt après 40 et 50 ans, plutôt chez des gens qui ont dans la famille des cas de diabète, qui sont survenus plus ou moins tôt dans la vie, et puis alors qui sont prédisposés par des facteurs liés au mode de vie, et en particulier le surpoids et la sédentarité. C'est ça qui va favoriser le plus la survenue du diabète de type 2, chez quelqu'un qui a, par exemple, des antécédents dans sa famille.
Là, on parle de surpoids plus que d'alimentation. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la masse corporelle.
C'est le facteur numéro un, c'est le surpoids, effectivement. Et dans le surpoids, c'est l'excès de poids au niveau de l'abdomen, notamment. Le surpoids abdominal, celui qu'on peut mesurer grossièrement par le tour de taille. Celui-là, c'est le facteur numéro un pour le diabète de type 2. Alors, il y a des facteurs alimentaires un peu plus subtils, quelquefois, qui peuvent diminuer ou augmenter le risque de diabète. Mais le principal, c'est ça, c'est l'excès de poids abdominal.
Et quelles sont les conséquences du diabète sur notre cœur et sur nos artères? Les mêmes que le cholestérol?
Oui, ça va favoriser les mêmes maladies, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, artérite des membres inférieurs. De ce côté-là, c'est similaire, parce que cet excès de sucre circulant dans le sang va modifier notamment le cholestérol et un certain nombre d'autres choses pour favoriser ces plaques d'athérosclérose. Et puis en plus, le diabète a d'autres complications. Et donc, le diabète chronique va exposer à des maladies du rein, à des problèmes au niveau des yeux, c'est une des causes principales de cécité, donc ça rend les gens aveugles. Et puis, ça peut également abîmer les nerfs périphériques. Donc, vous voyez, il y a d'autres complications du diabète. Mais effectivement, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur.
Alors, pour réduire ces risques cardiovasculaires, il faut réduire les 10 risques de cholestérol et de diabète, sachant qu'une fois qu'on a été diagnostiqué comme étant porteur de diabète, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Le diabète, on joue beaucoup sur la prévention quand même, non?
Alors, on joue beaucoup sur la prévention parce qu'on peut s'apercevoir plusieurs années avant l'émergence du diabète qu'on est déjà à risque de le devenir. Le diabète se définit comme un taux de sucre dans le sang. La stricte normalité, c'est moins de 1 gramme. Quand on est en dessous d'un gramme, il n'y a pas de risque. Entre 1 gramme et 1 gramme 26, et plus le taux de sucre est élevé, plus il se rapproche de 1 gramme 26, plus on peut deviner qu'il y a un risque d'apparition de diabète plus tard. Et donc, chez ces gens-là, qui vont avoir 1 gramme 15, 1 gramme 20, il est grand temps, effectivement, de corriger le tir, et donc de reprendre une activité physique ou sportive, et de perdre du poids. C'est comme ça qu'on va retarder l'émergence du diabète. Alors, c'est valable pour tout le monde, bien sûr, mais encore plus quand on a ce critère, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, une glycémie un peu haute, et surtout, là encore, si elle a des antécédents familiaux de diabète.
Et alors, quand on a du diabète, quand on a du cholestérol, comment est-ce qu'on peut quand même réduire nos risques cardiovasculaires?
On peut le réduire d'abord par le mode de vie. Donc, je ne parlerai peut-être pas aujourd'hui de l'activité physique, mais elle est évidemment toujours extrêmement importante, d'autant qu'on l'a vu qu'elle jouait un rôle très protecteur sur le diabète. Et l'autre critère, c'est la qualité de l'alimentation. Et donc, par la qualité de l'alimentation, on sait que globalement, une alimentation saine, ça va réduire d'à peu près un tiers le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, il y a différentes caractéristiques pour cette alimentation saine, mais elle va jouer sur plein de facteurs de risque de façon plus modeste à chaque fois qu'un traitement spécifique, mais quand on prend tout bout à bout, alors qu'on baisse un peu son cholestérol, qu'on baisse un peu sa pression artérielle, qu'on diminue son risque de diabète, il y a un bénéfice global qui est très important, comme je vous l'ai dit, à peu près un tiers de risque cardiovasculaire en moins.
Ça veut dire quoi une alimentation saine?
L'alimentation saine, les repères principaux, il y a des choses qu'il faut consommer et des choses qu'il faut réduire. Les choses qu'il faut consommer, on va commencer par le positif, c'est principalement, on l'a dit tout à l'heure, les fruits et légumes. Les fruits et légumes apportent des bons minéraux, apportent des bonnes vitamines qui sont protectrices sur ce risque d'athérosclérose. Donc le repère, c'est effectivement les fameuses 5 portions de fruits et légumes par jour, une portion représentant à peu près 30 grammes. C'est-à-dire, par exemple, pour un fruit, c'est à peu près un petit poing serré, donc une petite pomme, c'est une portion. Voilà. 5 portions de fruits et légumes.
On parle de fruits frais ou on parle de...
Alors, pour les fruits frais, mais à la limite, ça peut être valable aussi si c'est des fruits congelés, par exemple, ça reste possible. Mais enfin, le repère, c'est plus facilement pour les fruits frais. Et même chose pour les légumes, que ce soit dans une salade, on peut avoir 2 ou 3 portions de légumes. À chaque fois, c'est le repère, c'est un petit point, par exemple. Et donc, on peut rapidement, comme ça, apporter ces 5 fruits et légumes. Il y a des gens qui n'aiment pas bien les fruits et légumes. Bon, eh bien, ceux-là, s'ils en consomment déjà 2 ou 3, évidemment, c'est beaucoup mieux que 0 ou 1. Donc, il faut qu'ils tendent vers l'augmenter. Ça, c'est très protecteur pour les maladies cardiovasculaires et également d'autres pathologies. Puis, il y a des choses qu'il faut réduire, au contraire. Alors, c'est les graisses animales, principalement. Donc, les graisses qui vont être dans la charcuterie, dans les matières grasses laitières en excès, comme la crème ou le beurre, par exemple, alors que d'autres produits laitiers qui sont peu gras, comme les yaourts demi-écrémés, comme éventuellement le fromage en petite quantité une portion par jour, sont tout à fait autorisées.
On remplace cette graisse animale par de la graisse végétale ?
Alors voilà, évidemment, si on enlève la graisse animale, il faut consommer des lipides quand même, qui sont des médiateurs très importants pour pas mal de choses. Et donc, il faut consommer des graisses insaturées, qui sont principalement des graisses végétales. Et parmi les graisses végétales, celles qu'on met en avant particulièrement, pour diverses raisons, c'est l'huile d'olive et également l'huile de colza, par exemple, qui vont apporter des nutriments très protecteurs. L'huile d'olive apporte en particulier des antioxydants naturels qui sont très intéressants. Alors, dans les autres choses qu'on peut citer aussi, c'est le fait que, sans l'interdire, on limite la consommation de viande rouge, 2-3 fois par semaine maximum. On va plutôt privilégier les viandes blanches, comme la volaille, par exemple. Et puis le poisson. Le poisson est un aliment à consommer au moins 2 fois par semaine, et en particulier 1 fois par semaine du poisson gras, parce que ça apporte des oméga-3 qui sont également protecteurs sur le plan cardiovasculaire.
Est-ce que ça marche vraiment, tout ça ? Est-ce que si je mange moins de charcuterie, si je mange plus de poisson, si je me force pour manger des fruits et légumes alors que j'aime pas trop ça, est-ce que je vais avoir des vrais résultats sur mes risques cardiovasculaires ?
Vous allez l'avoir. Ça va être, comme je vous l'ai dit, moins démonstratif qu'un médicament, mais ça va agir sur beaucoup plus de choses et de façon tout à fait sans risque et sans effet indésirable. Donc vous allez un peu baisser votre cholestérol, vous allez réduire votre risque de diabète, vous allez réduire votre risque d'hypertension artérielle. Là, il y a un autre élément important à souligner, on l'a déjà cité, c'est le sel. Il ne faut pas manger trop salé, parce que le sel favorise l'hypertension artérielle. Donc par tous ces éléments, l'alimentation saine va réduire votre risque cardiovasculaire, et je vous l'ai dit, d'à peu près un tiers, parfois plus. Donc c'est quand même un élément majeur et sans risque aucun d'effet indésirable.
L'un des autres biais pour baisser son risque cardiovasculaire, c'est de se faire dépister, c'est de tester son cholestérol, tester son diabète, commencer peut-être par faire le test sur le site de la Fédération française de cardiologie.
Voilà, c'est une approche qui est tout à fait cohérente d'associer les deux. J'évalue mes risques. Et donc là, ça va être, par exemple, sur le site de la Fédération, on va vous demander le niveau de cholestérol, le niveau de pression artérielle, le risque de diabète, le tabac, les antécédents familiaux. Tous ces éléments jouent un rôle pour l'apparition du risque cardiovasculaire. Et évidemment, si son risque est un peu élevé ou très élevé, c'est vraiment le moment de modifier son mode de vie en premier lieu, avant de parler d'éventuellement recourir aux médicaments. Et puis, pour tout le monde, évidemment, c'est souhaitable d'avoir un mode de vie sain. Mais c'est encore plus important quand son niveau de risque est un peu élevé.
Merci, en tout cas, on vous a bien entendu. Avec quelques gestes plutôt simples, on fait baisser son risque cardiovasculaire. Commencez déjà par aller remplir ce test sur le site de la Fédération française de cardiologie. Ça vous permettra de connaître votre risque cardiovasculaire. Ensuite, eh bien, de voir comment vous pouvez gagner des points sur ce test. Merci, docteur François Paillard, d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci.
N'hésitez pas, allez-vous aussi faire le test sur le site de la Fédération française de cardiologie, vous le verrez, c'est anonyme, c'est gratuit, c'est rapide et ça vous permet de connaître votre risque cardiovasculaire. Et puis, sans avoir à tout recommencer, vous pouvez juste changer un critère et voir comment, en changeant quelques habitudes, vous pouvez diminuer votre risque cardiovasculaire. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos podcasts Un cœur qui bat, la vie qui bat sur le site de la Fédération française de cardiologie fedecardio.org ou sur toutes les plateformes de podcasts. À bientôt.
Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.